Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'opportunité d'être avec vous. C'est vrai qu'on est réjouis de ce qui se passe tant au niveau de la ville, de ce qu'on voit dans l'église libre, mais aussi de ce qu'on voit à Honnay, de loin comme ça, et puis les fois où je viens, j'ai l'impression qu'il y a une dynamique qui est vraiment en route, quelque chose qui bouge et qui va de l'avant, et on s'attend à ce qu'il y ait une visitation de Dieu qui vienne sur notre ville et dans nos vies, dans nos familles, dans nos paroisses. On avait aussi la joie d'avoir avec nous Laurent. Merci d'être venu avec nous ce matin au Buis. Il y avait Thierry Bourgeois aussi qui était là. Chez nous au Buis, on est un petit peu dans une autre dynamique, mais qui ressemble. On a mis en place ce qu'on appelle une équipe pastorale. Jusque-là, il y avait un conseil au Buis, et puis on a essayé toutes les variantes possibles, et puis voilà, ça mène, c'est pas forcément évident. Donc, la différence de ce qu'on va vivre ce soir, c'était plutôt une équipe qui se met en place, dans laquelle je pense qu'il y a des anciens et d'autres ministères, Éphésiens 4, et c'est une étape dans laquelle on est entré. Et merci d'avoir été là avec nous. Et puis on a eu une longue réunion cet après-midi avec cette équipe pour parler de l'avenir. Ça s'est très bien passé. Voilà, c'était très encourageant. Il y avait quelques petits défis, mais franchement, on a été encouragés et bénis. Alors, les anciens. On connaît tous bien ce mot, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est encore bien approprié aujourd'hui en 2019? Est-ce qu'on devrait utiliser un autre mot? Voilà, c'est des réflexions qu'on peut avoir. Peut-être qu'on peut utiliser d'autres mots. J'aimerais lire un premier texte dans Genèse 4, versets 9 à 11. Il n'est pas affiché là, je vous le lis. C'est juste après que Caïn et Abel se soient disputés. Et puis Caïn, parce qu'il a laissé le péché, la jalousie, l'envie monter en lui, il a tué son frère. Et puis il y a cette question qui est célèbre dans la Bible. Dieu vient... voir ce qui se passe, un petit peu comme il a fait avec Adam et Ève quand ils essayent de se cacher. Dieu vient les visiter, il s'adresse à eux. Genèse 4, 9 à 11. Alors le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn répond, « Je ne sais pas. Est-ce que moi je suis le gardien de mon frère ?» Je vais m'arrêter là, on ne va pas lire la suite. Parce qu'en fait c'est vraiment cette question. « Est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» On oublie un peu le contexte, c'est pas tellement ce qui s'est passé avant et après, mais cette question que Caïn va adresser à Dieu, il lui dit, est-ce que finalement je suis responsable de mon frère? Est-ce que ce qui lui arrive, ça me touche, c'est mon problème? Et je crois que quand on lit le reste du texte, puis qu'on lit toute la Bible, Dieu nous répond, oui. On est le gardien de notre prochain, de notre frère. On ne doit pas faire les choses à sa place, on ne doit pas outrepasser sa responsabilité, ni sa liberté, ni le manipuler, mais ça fait partie de l'amour. Aime ton prochain comme toi-même, dis-lui la vérité, prends soin de lui, encourage-le, veille sur lui, avertis-le. Et oui, on est gardien de notre frère, de manière générale, de manière... dans l'humanité en fait. Et quand on parle des anciens, il y a cette idée dans le travail d'un ancien d'être un gardien, d'être un surveillant, d'être quelqu'un qui veille, qui prend soin. Et là, on va beaucoup plus loin que juste la question et même la réponse que le Seigneur semble donner à Caïn. Là, on parle d'une responsabilité d'être gardien, de veiller, qui est bien plus vaste et qui a un autre degré d'importance et de responsabilité. On peut lire ce texte, je pense, bien connu dans 1 Pierre 5, 1 à 4. On va le lire un petit peu plus loin. Il est affiché, en fait. Pourquoi je... Voilà, si déjà j'ai pris le temps. Vous avez compris qu'on va parler des anciens, hein, puisqu'il y a une consécration d'anciens. Alors, on aurait pu prendre d'autres textes, mais j'aime beaucoup celui-là parce que Pierre, on le connaît bien comme un apôtre et même un apôtre fondamental, celui à qui Jésus dit « Je t'ai donné les clés, hein, les clés de mon royaume » et vraiment, il a une place prépondérante dans ce qui, dans l'établissement de l'Église, dans le début du livre des Actes. Et dans ce texte, il écrit qu'il se considère lui aussi comme un ancien. Voici les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Moi qui suis ancien comme eux, témoins des souffrances du Christ et participants de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Amen. Un texte, un des textes clés qui parle des anciens, il y en a d'autres, on ne va pas tous lire, on va juste partager quelques pensées, parce que l'important c'est qu'on puisse prier avec Carlos et Teresa. J'ai marqué leur nom parce que j'ai un tel défi avec les prénoms, qu'il est en grand là. Je les connais, hein, mais... intéressant ce texte. Hein. D'abord, on se rappelle que Pierre, voilà, il est considéré, mais il n'est pas juste considéré, c'est un apôtre, c'est un homme clé. Mais quand il écrit à cette église, à ses croyants qui sont là, il dit « Moi, je suis ancien comme vous ». Et lui aussi avait cette responsabilité, même s'il est dans un ministère d'apôtre, quand il est dans l'église locale, quand il est dans le corps local, il a ce rôle avec ses collègues d'être des surveillants, d'être des veillants sûrs, je préfère ça plutôt, d'être un modèle, d'être quelqu'un qui est là avec dévouement, plein d'amour, pour veiller sur ceux qui lui sont confiés. Et il y a vraiment cette idée de modèle. Et on fait cela parce qu'on sait que le souverain berger, Jésus, un jour va revenir et il nous donnera la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Mais il nous demandera aussi des comptes. On va lire ça un petit peu plus loin. Un autre texte que je n'ai pas affiché, mais je vais vous le lire. Je pars de l'idée que vous savez bien qu'est-ce que c'est que les anciens, puisqu'il y a cette idée qui est là, mais c'est bien de les relire, c'est bien de les rappeler à Carlos et Teresa. Ouais, j'ai dû aller voir. C'est Paul qui parle à Tite. « Je t'ai laissé en Crète afin que... » Tite 1, verset 5 à 10. Tite 1, verset 5 à 10. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. » Et ce texte nous commence, c'est Paul qui parle, aussi un apôtre, hein, qui gère et qui surveille toutes les églises qui s'implantent dans cette région. Et il va dire à Tite, « Je t'ai donné des instructions, tu dois mettre en ordre. » Il y avait quelque chose de clair qu'il devait faire. « Tu dois établir des anciens. » Ça doit être des hommes irréprochables, fidèles à leur femme, dont les enfants soient croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable, l'ancien, le berger, on pourrait mettre différents noms, on va en voir quelques-uns après, soit irréprochable. Boum. Ça va? Il faut qu'il soit irréprochable. Mais ce qui nous aide à comprendre ce texte, c'est que Jésus, il s'adresse à nous et il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est vrai, hein, Jésus, il nous dit ça. Donc s'il nous le dit, c'est qu'on peut le faire. Et il y a un petit peu cette même idée d'être irréprochable. Ça ne veut pas dire qu'on est des gens parfaits, qu'on est déjà comme Jésus, mais les motivations, notre dépendance de Dieu, elle est claire. Et on pourrait dire, soyez devenant irréprochable ou soyez devenant parfait. Cet ancien, il ne doit pas être arrogant. Il me semble que ça va avec Carlos et Teresa, hein ? Vous qui les connaissez, parce que c'est vous en tant qu'assemblée aussi qui reconnaissez ce qu'ils sont. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je suis perdu dans mon texte. Il ne doit pas être arrogant, il ne doit pas être colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Ça va toujours ? Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui-même, attaché à la parole digne de confiance telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine, mais aussi capable de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis, des discoureurs creux et trompeurs, surtout parmi les circoncis. Paul y va, hein ? Il ne s'embête pas, hein ? Il dit, parmi les croyants d'origine juive, c'est ça qu'il veut dire, hein, parmi les circoncis qui étaient un peu légalistes, il y en a qui sont embêtants, et il dit, n'aie pas peur, il faut que les anciens que tu établisses, parce que Jésus leur donne ce mandat, cette autorité, ils puissent rétablir ce qui est juste et vrai, qui que ce soit qui est en face d'eux. Ce texte, et on pourrait lire Timothée aussi, qui dit à peu près les mêmes choses, nous montre qu'il y a une vraie exigence morale, en fait, de la part du Seigneur envers ceux à qui il veut confier son troupeau. Alors ça peut nous écraser, nous faire peur, mais en fait, Paul, il dit, ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et ce que vous l'êtes par la grâce de Dieu. Et je vous connais moins bien que Laurent et Anne et l'Église, mais vous êtes déjà des modèles et vous avez les qualifications pour être anciens. Amen. Je pense que vous êtes d'accord, vous qui les connaissez. Et donc recevez ça simplement, c'est le fruit de la grâce de Dieu, vous l'êtes. Et aujourd'hui, on va reconnaître ce que déjà vous êtes. Quelques mots sur les fonctions des anciens. On pourrait lire beaucoup d'autres textes, mais j'ai promis à Laurent que je serai court, je vais m'y tenir. Et on va plutôt faire un survol de c'est quoi la tâche d'un ancien. Et ça va être un rappel plutôt qu'aller dans une étude, on n'aura pas le temps. Alors, on va voir 7 termes pour les responsables d'église. J'ai pris ce mot, responsable d'église, c'est les anciens, les pasteurs, mais c'est plutôt lié aux anciens. Alors on va... Ah ben non, ils ne devaient pas arriver tous ensemble. Ça c'est le passage par Macintosh. Mon ordinateur parle suisse, hein, donc ça devait venir l'un après l'autre, c'est pas grave. On va quand même revenir comme ça, ça devait être l'un après l'autre. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, quand il est question des anciens... Ah non, je ne suis même pas au bon endroit, excusez-moi. Oui, voilà, j'étais allé trop loin. On les appelle anciens. Je vais passer très rapidement. Ça vient d'un mot grec et ça nous parle d'idées de dignité, de maturité, d'expérience et de responsabilité. C'est plutôt une notion qui vient du peuple juif, hein, où l'idée des anciens était très présente. Et il est utilisé, mais avec d'autres termes. Donc il y a cette idée de quelqu'un qui a de la maturité, de l'expérience. Ça ne veut pas dire qu'il est vieux, mais il y a quand même l'idée qu'il y a déjà du poids dans sa vie. Et l'idée de dignité. Ensuite, on les appelle les surveillants. On pourrait utiliser d'autres mots. Ça, c'est l'autre mot qui est utilisé très souvent, qui vient plutôt du grec. Hein, Paul, il écrit à la fois aux Juifs, il écrit aux Grecs, il prend les deux choses. Et c'est ce qui a donné, c'est l'épiscope en français, celui qui veille sur, celui qui supervise, c'est comme celui qui protège. Hein, on a toujours cette idée de gardien. Et ça parle peut-être plus de son rôle de surveiller, de veiller, de prendre soin, de protéger. C'est l'action qu'il aura à mener. Et c'est ce que vous êtes appelé à faire. Et c'est ce que vous êtes appelé et que vous faites déjà. On les appelle aussi les présidents, ou ceux qui dirigent, ou ceux qui sont à la tête, ou ceux qui président. Il y a comme ça différents textes. On trouve ça, par exemple, 1 Thessaloniciens 5.12, 1 Timothée 5.17. Je pourrais donner les notes pour ceux qui veulent. Et il y a cette idée de ceux qui sont à la tête. On pourrait dire « leader » aujourd'hui. On a peur des fois de ce mot, mais en fait, le Nouveau Testament est rempli de l'équivalent de leader. Je ne sais pas si, comme vous, des fois, j'entends des braves chrétiens, parfois un peu teintés de légalisme, je trouve, qui sont hérissés par ce mot de leader. Bien sûr, si on pense à leader, à l'idée de celui qui va dominer, qui est devant, qui est la star, mais c'est le mot dont la Bible nous parle, ceux qui dirigent, ceux qui vous gouvernent, ceux qui sont devant. Ceux qui président. Et bien sûr, le modèle parfait, c'est Jésus qui sert. Il nous dirige parce qu'il nous sert. Donc, un autre mot, les bergers. Berger ou pasteur. En fait, le mot pasteur, je pense que vous le savez, dans le Nouveau Testament, on le trouve très très peu. Il y a plein de pasteurs, plein les églises, entre guillemets, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je crois que je l'ai dit ici, je ne suis pas sûr que tous ceux qu'on appelle pasteurs soient vraiment pasteurs. Et à mon avis, il y a, je crois, finalement, pas beaucoup de vrais pasteurs. Ça, c'est mon avis. Il y a beaucoup d'évangélistes, de docteurs, peut-être des touches apostoliques ou de bons enseignants, mais vrais pasteurs, je pense qu'il y en a peu. Mais les anciens sont aussi appelés bergers ou pasteurs. Et ce qui les caractérise, c'est plutôt le verbe. Quand on parle d'eux, on découvre qu'on parle d'eux parce qu'il y a le mot « paître », comme un berger qui fait paître ses brebis, qui prend soin, qui prépare la nourriture, qui veille à leur protection. Il les nourrit, il les soigne, il les guide, il les dirige. Et en fait, chacun des ministères est appelé à faire ça, mais c'est vraiment le rôle des anciens, avec l'équipe en place, qui va jouer ce rôle de berger. Un autre terme qu'on retrouve souvent, conducteur, et là de nouveau il y a cette idée de leader, de celui qui est devant, les conducteurs, ceux qui conduisent. Hébreux 13, verset 7, par exemple. « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez l'issue de leur conduite et imitez leur foi. » Hébreux 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs. » Aujourd'hui, en reconnaissant Carlos et Teresa, c'est terrible les prénoms et moi, vous vous engagez aussi dans la juste mesure, à leur obéir. C'est bien de le rappeler. Tous, Laurent aussi en tant que pasteur, président, directeur, non, il y a une part où il se soumet, on se soumet à eux. Vous êtes d'accord avec ça? Et la soumission, c'est toujours une bénédiction et une protection. Pourquoi tu ris, Stéphane? Hébreux 13, 17, « Obéissez à vos conducteurs, soyez leur soumis, car ils veillent sur vos âmes comme ayant à rendre compte. » Je ne sais pas pour vous, ça c'est un des textes qui souvent me fait peur, en fait. Un jour, on va se présenter devant Jésus, puis on aura des comptes à rendre sur les personnes qu'il nous a confiées. Et c'est juste, je crois, quand on accepte une charge d'ancien, de responsabilité envers des âmes, qu'il y a une certaine crainte et comme un poids qui tombe sur nous. Pas pour nous écraser, mais c'est une vraie responsabilité. Comme quand on devient parent, finalement. Tout à coup, quand on réalise tout ce qu'on va inculquer à nos enfants, en bon, en moins bon, et on sera responsable de ça. Les conducteurs, ceux qui conduisent. Donc, attendez-vous aussi, et c'est juste normal qu'en tant qu'ancien, on donne une certaine direction. On donne une impulsion. C'est leur rôle. On les appelle aussi des administrateurs. Des administrateurs, ou des intendants, ou des gérants. Tite 1, verset 7, par exemple. 1 Corinthiens 4, verset 1 à 12. 1 à 2. Il faut que l'administrateur, le surveillant, soit irréprochable. Des dispensateurs, c'est-à-dire Dieu nous a confié quelque chose, des personnes, un groupe de personnes, et on doit en prendre soin, on doit le faire fructifier, on doit le servir en vue de son bien à lui. Dernier terme, et je vais m'arrêter là, mais c'est les principaux, ceux qui gouvernent. Bonjour, gouverneur. Ceux qui gouvernent, ceux qui dirigent. Et ce mot vient d'un mot grec, je ne connais pas le grec, mais c'est intéressant de voir où il a été utilisé. C'est le mot « kubernesis », on le retrouve souvent dans le Nouveau Testament, et c'est vraiment l'idée de gouverner. On l'utilisait, par exemple, ça vient du pilotage d'un navire, c'est celui qui tient le gouvernail, ou je ne sais pas comment on appelle, la roue qui actionne le gouvernail. Mais c'est vraiment celui qui donne la direction. Et qui impulse, il gouverne, il dirige. C'est le timonier. Dieu a placé les uns dans l'assemblée, d'abord les apôtres, en second lieu des prophètes, en troisième lieu des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, ensuite ceux qui ont le don de grâce, le don des guérisons, des aides, des gouvernements ou le don de gouvernement. 1 Corinthiens 12, 28. Et donc, en tant qu'ancien, il y a aussi vraiment une responsabilité où on doit diriger, gouverner l'Église, servir l'Église. Alors, la question qu'on peut se poser là, parce que j'aimerais conclure, est-ce que vous avez toutes ces caractéristiques ? Absolument. Et vous pouvez répondre, non, c'est pas possible. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, il y a toujours plusieurs anciens, où il y a toujours une équipe de responsables. Et je crois que c'est juste qu'il y en ait, qu'on soit capable de servir dans une certaine mesure dans tous ces endroits-là, mais souvent, on a une partie qui est prépondérante. Je sais pas, moi, quand je vous regarde, je vois plutôt des bergers, diacres, serviteurs fidèles sur qui on peut compter, des hommes de parole. On peut vous regarder comme des modèles, vous, avec vos enfants. C'est vrai ? Peut-être gouverner, ce ne sera peut-être pas votre premier point fort, à mon avis. Si je me trompe, hein, vous comprenez ce que je veux dire ? On peut avoir, je crois qu'on doit être capable de servir dans tous ces domaines. Il y a des moments où on est comme obligé. Mais il y a toujours un, deux, trois endroits, plusieurs où on est plus fort. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de plusieurs personnes. Et on va se compléter. On va, comme notre corps, il y a des membres différents, mais ils travaillent tous ensemble dans un même but. Je termine, parce qu'après j'aimerais qu'on puisse laisser la place pour la prière. Mais c'est juste pour ces quelques rappels. Là aussi, ils auraient dû apparaître l'un après l'autre. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu. Ils sont caractérisés, ces anciens aussi, par des verbes. Et je trouve ça très intéressant. C'est différent, on va juste les voir comme ça. Ils font paître, on l'a déjà vu. C'est l'idée du berger qui nourrit, qui protège, qui prépare la nourriture. Quand on parle d'eux dans leurs actions, ils prennent soin, un peu comme une maman ou comme un père, comme quelqu'un qui a l'envie de protéger. Et ça, c'est votre travail. Nourrir, ça rejoint paître, mais nourrir, et là, il est plutôt question de la parole de Dieu qu'on va donner et qui va édifier, qui va nous permettre de grandir spirituellement. Je saute les versets, je les laisserai dans les notes si vous les voulez. Il y a un aspect... Vous voyez, tous ces verbes sont liés d'enseignement. Et je crois que c'est bien de réaliser qu'un ancien, il doit être capable d'enseigner. Il n'est pas forcément apte à prêcher de manière magistrale, mais il peut enseigner en un à un. Il peut enseigner en étant un modèle, en accompagnant des personnes. Oui, bien sûr, il doit maîtriser les basiques de la doctrine et pouvoir partager. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est un ancien, on va pouvoir prêcher, faire des grandes études bibliques. Mais on doit pouvoir enseigner peut-être la part qui nous appartient et de plusieurs manières. Administrer, ça rejoint ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire on va gérer. On va veiller à l'ensemble de l'Église, les finances, le programme, les différents groupes, les différentes personnes. On va le faire avec les autres. Veiller, et à nouveau, on va diriger. En ayant fait ce petit survol, ça pourrait vous écraser, mais je crois que bien au contraire, ça ne doit pas vous écraser, ça doit vous aider à voir, là, c'est les points où on se sent plus à l'aise. Je pense que déjà, vous les connaissez. Et puis aussi déjà préparer à chercher peut-être d'autres personnes qui vont nous être complémentaires. Et je termine avec simplement cette idée que dans le Nouveau Testament, il n'est jamais question d'un ancien, mais des anciens et des responsables. Et parce qu'ils sont appelés à travailler en équipe. Et je termine avec ça, je vais laisser la place à Stéphane ensuite. On va passer ce passage, mais une équipe qui est complémentaire. Un des dangers, d'abord, une équipe, c'est vraiment tellement puissant. Parce qu'on va être, on va se supporter les uns les autres, on va veiller sur les faiblesses ou les limites de mon voisin, puis lui, il va veiller sur les miennes, il va être fort là où je suis faible, etc. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, quelque chose que vous vivez déjà, que vous savez faire. Mais quand une équipe se construit, qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent en route, je ne sais pas où vous en êtes ici, nous, c'est un des petits défis qu'on a vu. Et je crois que c'est quelque chose que vous devez prendre note. On ne peut pas toujours décider tous ensemble. Quand l'équipe grandit, même si on a une charge d'anciens qui est répartie sur plusieurs, si on doit toujours être tous ensemble pour tout décider, absolument tout, au même niveau, on va se paralyser. Vous êtes d'accord avec ça ? Et c'est un travail de maturité. On doit comprendre qu'on a une charge ensemble, mais qu'il y a peut-être des domaines où on va faire confiance à un, deux ou trois parmi nous, ou deux personnes, ou le pasteur avec quelqu'un d'autre qui n'est pas ancien. Et dans cet aspect-là, il va être, les décisions vont être prises et les bonnes options vont être prises. Parfois, quand on veut être nombreux et qu'on veut toujours tout décider tous ensemble, on se paralyse. Et on doit souvent veiller à ça. Je pense qu'en tant que Suisse, on doit veiller à ça. On a envie d'aller là-dedans. C'est un peu notre culture, notre nature, et on peut parfois se paralyser. Amen. Vous voyez ce puzzle, il se met ensemble. On va juste lire le verset juste avant. Et Stéphane ou Laurent, je redonne la place. Si tu peux revenir au verset juste, voilà. Peut-être ça peut être ma conclusion. C'est Paul, quand il part, il a fini son travail, je ne sais plus où il est exactement, c'est Actes chapitre 20. Il s'adresse aux anciens, il les a tous réunis, et il leur dit, et j'aimerais dire ça, « Faites donc bien attention à vous-même. » C'est Dieu qui s'adresse à vous. Vous devez prendre soin de vous, si vous n'êtes pas en bonne santé, morale, physique, spirituelle, dans votre couple, dans votre famille, vous ne pourrez pas servir l'Église. Et je crois qu'on doit aussi dire ça à l'Église, vous devez veiller à ce qu'ils aient du repos, à ce qu'ils puissent être bien entre eux, à ce qu'ils puissent prendre soin d'eux-mêmes. Et puis Paul, il dit aussi, et vous devez aussi bien veiller au troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. Amen. Seigneur, merci. On a fait un petit survol de ce que c'est, tout ce que tu nous confies. C'est une grande tâche, ça pourrait nous faire peur, mais en même temps, on voit tellement ta grâce qui nous équipe, qui nous accompagne, et tu nous fais confiance, et surtout tu nous dis que toi-même, tu travailles avec nous. Ma prière, c'est que ici, dans cette Église, et pour... Carlos et Teresa, ils sachent dépendre de toi. Ils sachent dépendre de toi. Et ils puissent travailler avec toi. Au nom de Jésus. Amen.